Passation de pouvoir à l'Elysée, passation de recettes sur le plateau dont on va déguster.
On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
Des pommes de terre, nuovo, un petit peu de sale, un petit peu de pepe, avec un peu de farine, da travailler bien la pâte, les gnocchis jusqu'à que le monde se prenne.
Les aubergines farcies, c'est pas vraiment arménien le nom, c'est Imamba Eldi. C'est les aubergines farcies aux légumes, on le fait aussi bien à la viande. J'ai appris de ma mère, j'essaye de faire comme elle fait ma mère pour que ça soit bon.
Ce qui me plaît beaucoup dans cette recette, c'est qu'elle résume ma façon de cuisiner, c'est-à-dire beaucoup d'instinct, beaucoup d'émotion. Pour faire la pâte, pas de recette précise, un petit peu d'eau, un petit peu de farine. Et là, quand la pâte adopte la même texture que le lobe de votre oreille, la pâte est parfaite.
Mon métier, donc c'est la bande dessinée, hein, c'est pas la cuisine. Par contre, je suis vraiment gastronome et gourmand. Et tout ce qui tourne autour de la bouffe m'intéresse. Donc voilà, autant le faire en bande dessinée en fait.
Aujourd'hui, on reçoit quand même, il faut le signaler, deux figures emblématiques de l'agit-popote qui vont mettre le feu au plateau dont on va déguster. Sonia Esguillon, cuisinière à Lyon. Bonjour.
Bonjour François-Régis.
Guillaume Long, auteur de bande dessinée. Bonjour, à Lyon aussi, bonjour.
Bonjour François-Régis.
Merci d'avoir fait le voyage depuis la capitale des Gaules quand même. Hein. On est en direct, ça je pense que tous nos auditeurs l'ont remarqué. On est en direct en ce dimanche pour une émission ultra salivante. Un chef et un dessinateur pour un album de recettes méchamment salivant. Ça s'appelle « À boire et à manger » avec Sonia Esguillon. C'est édité aux éditions Gallimard. Ça sort en librairie dans quelques jours, Guillaume Long, je crois. Hein. C'est pas
c'est
encore dans les
le 16 juin.
Rayonnage.
Ouais, oui, le 18 juin, pardon.
Non, juin ou mai.
Non, mai, pardon.
18 mai, bravo.
Ça commence.
On est très en avance. Non, c'est 18 mai, je vous le confirme. C'est même jeudi, la sortie de votre livre. Alors, Guillaume Long, vous avez enfilé votre tablier, vous avez plongé votre fourchette et vos crayons dans les casseroles de Sonia Esguillon. Ça donne un livre d'aventure culinaire où l'on retrouve ce qui fait votre pâte. Votre humour mordant, votre mauvaise humeur, votre mauvais esprit, mais aussi, et il faut le noter, votre sens de l'autodérision. On va évoquer quelques aventures. Il y a les gnocchis de Donna Muratore, les aubergines vapeur comme à Saïgon de Thierry Goujon. Vous nous avez apporté quoi, Sonia?
Alors, ces fameuses aubergines,
oui.
J'ai apporté les anchois du padre que j'ai ramené de Naples,
oui.
Et également le cochon au citron, le flan de Patricia, le flan qu'on évoquera tout à l'heure, et puis un mini édredon de Damien, de notre fameux Damien Gâteau.
Et bon, on va en parler évidemment de cette figure épicurienne de Lyon. Et Guillaume n'est pas venu non plus les mains vides, puisqu'il est armé de ses crayons, c'est ça?
De mes crayons, c'est ça, et de mes aquarelles, et puis je vais faire des petits dessins pour l'émission.
Je crains le pire, hein, qu'on va retrouver d'ailleurs sur Twitter avec le hashtag on va déguster tout au long de l'émission. Estherelle Payani, bonjour.
Bonjour François-Régis.
D'une cuisinière lyonnaise, Sonia Esguillon, à une autre, une véritable icône d'ailleurs, hein, dans la capitale des Gaules.
Il était l'heure aujourd'hui de rendre gloire à la plus fameuse des mères lyonnaises, à savoir la mère Brasier.
À travers une recette exceptionnelle.
Avec beaucoup de beurre, une petite galette bressane pour bien digérer après tout ce que Sonia nous a apporté.
Voilà, beaucoup de beurre, mais heureusement pour compenser ce surcroît calorique, Arnaud Daguin à la solution. Bonjour Arnaud.
Bonjour à toutes et à tous.
Votre coup de lame aujourd'hui?
Un coup de lame, mais du corps.
Oui, c'est ça. Il y a aussi, il sera histoire de coup de fouet, on va voir ça. La fine équipe dont on va déguster, Liscombe, Julien Chabassu, Nadia Chougui, Djoubaka pour la programmation musicale. On va déguster, c'est parti.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
C'est tellement facile que même lui peut y arriver. On parie?
Qui va arriver à quoi?
Tu pensais tout. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est l'avant-dernière fois qu'on travaille, enfin, qu'on se voit pour notre livre.
Ah oui, remarque, je suis exténué. Je rêverais d'un bon plat sans avoir à cuisiner des heures.
Oh bichette, c'est vrai que tu t'es investi au fourneau. Hein.
Oui, bon bah ça va, rappelle-toi, dès la troisième recette, j'ai failli perdre mon petit doigt, va cuisiner après ça.
Oh, bon, tu vas voir, ça va aller cette fois. Donc aujourd'hui, on va faire une recette de copains à moi qui sont paysans. Tu sais ceux que je vais voir souvent dans la campagne lyonnaise pour tuer le cochon. J'ai appris à désosser la tête pour faire du pâté, à ficeler des saucissons, après les avoir embossés.
Bon sang, elle va m'obliger à saigner un cochon dans sa cuisine.
Mais quel souvenir, j'aurais adoré de faire tout ça avec toi. Remarque, je me suis sentie toujours plus proche de la campagne que de la ville. Bref, je te rassure, on ne va pas tuer le cochon pour le moment,
cool.
On va faire plus simple. Le flan de mon amie Patricia.
Ah, mais ouais, tu sais, je suis pas très dessert, moi.
Oui, mais moi non plus, je ne suis pas très dessert. Dès qu'il faut doser, peser, ça me saoule direct. Sans compter la vaisselle, après...
Oui, mais bon, moi je suis vraiment
pas
très...
Il n'y a pas de mais. Tu vas voir, cette autre recette est ultra simple.
Oui, mais le truc, c'est que j'aime pas le sucre, même si ça me saoule aussi dès qu'il faut doser,
mais
etc.
Tu vis avec une pâtissière.
Oui, mais bon, elle a d'autres qualités.
Bon, écoute, pour cette dernière recette, tu ne vas pas commencer à me mettre la rate au courbouillon.
Ah non, mais je disais ça comme ça. Hein,
lave-toi les mains et on attaque.
Mais ça va, j'ai rien touché.
Lave-toi les mains.
Bon, ok, d'accord, allez.
Un dialogue en direct entre nos deux personnages, Sonia Esgulian et Guillaume Long, qui se mettent en scène dans ce livre à quatre mains. Ça vous donne une idée, chers auditeurs, de la complicité chamailleuse qu'il y a quand même entre vous. C'est un extrait du chapitre intitulé Tout un flan, qui est l'une des histoires gourmandes que vous partagez dans À boire et à manger avec Sonia Esgulian aux éditions Gallimard.
Oui.
Le principe, c'est Guillaume Long qui vient tout simplement prendre une leçon de piano. Hein.
Une leçon de piano, c'est ça. Ça devait être d'ailleurs le titre original du
livre.
Ouais. Et puis voilà, oui, c'était une chouette rencontre. Elle m'a appris plein de trucs. En fait, au bout d'un moment, j'ai dû choisir entre faire les choses avec Sonia et prendre des notes dans mon carnet.
Bon, ça, c'est la grosse excuse pour dire qu'il a cuisiné une fois et qu'après il a posé le tablier.
Mais oui, non, mais c'est pas aussi simple que ça.
Vous êtes en train de nous dire, Sonia Esgulian, qu'à Lyon, dans vos cuisines, Guillaume Long était un élève dissipé.
Alors c'était génial.
Très ponctuel.
Première leçon, il est venu travailler une heure et demie. Manque de peau, j'ai commencé par les gnocchis, donc ça l'a écœuré, Bichette.
Et le flan.
Oui. Et ça l'a écœuré parce qu'en fait c'était très long à préparer. Donc effectivement, on n'était pas deux pour manger ces recettes comme on peut le croire en lisant l'album. On était souvent une douzaine, donc il a fallu faire beaucoup de gnocchis. Et la fois suivante, une demi-heure. Et puis une fois, il est même arrivé un quart d'heure avant les invités. Donc là, c'était très chouette. Mais en fait, sans plaisanter, ce qui était intéressant, c'est que Guillaume avait besoin de prendre des notes, parce que ce que je voulais lui faire comprendre à travers toutes ces recettes, c'est que le plus important, ce sont les émotions et les personnages. Et donc là, il avait besoin de comprendre que je lui raconte ces personnages, que je lui explique les sensations dans la cuisine, et pas que je lui détaille par le menu toutes les recettes.
C'est ce qu'on aime chez Sonia Esgulian, c'est que la cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes. La recette n'est pas une simple performance technique, c'est toute une aventure, une histoire gourmande, des anecdotes. Alors on le voit avec le flan, justement, puisque dans votre généalogie gourmande, Sonia Esgulian, il y a une partie auvergnate. Et c'est dans cette connexion auvergnate, entre guillemets, que vous êtes allé chercher cette recette de flan.
Oui, parce que c'est une ménager. Recette extrêmement simple. C'est justement une recette ménagère que
Coucou
même
Patricia,
Guillaume peut refaire. Et donc, c'est mon amie Patricia qui vit à la campagne. On va très souvent, son mari est le seigneur, celui qui tue le cochon et qui le découpe et qui prépare donc le boudin également. Et cette recette, on l'a fait en deux temps, trois mouvements, et on l'a fait pour des grandes, grandes quantités de gens, puisque souvent, quand on fait le cochon, on est à peu près 60, donc il faut quand même nourrir son monde. Et cette recette est très très simple, en fait, on casse les œufs.
Alors on ne parle pas, précisons-le, d'un flan pâtissier avec une pâte, on parle d'un flan caramel.
Non, pas la parisienne, c'est vraiment le flan qu'on va faire cuire.
On ne tire pas des flans sur la comète.
Pendant que vous avez la parole, Arnaud Daguin, vous allez nous goûter ce flan et faire un petit commentaire, s'il vous plaît.
Oui,
Sonia, vous allez nous dire ce que vous en pensez.
Je continue à expliquer peut-être. Alors en fait, très très simple, un saladier, on casse les œufs.
Combien ?
Entiers, 7.
D'accord.
Qu'on va battre avec du sucre. Moi, je mets 150, mais si on a envie d'en mettre un peu moins, on peut. À côté, on fait chauffer du lait, 1 litre. Alors là, la grande chose, c'est que si possible, du lait cru, au moins entier, mais cru. Dans la
comment si
du possible,
obligatoirement.
Si
un
possible,
lait de qualité.
Voilà,
un et bio,
comme
on peut
dire. On est assez tolérant dans les recettes,
voilà,
c'est
on
vrai.
On est assez tolérant.
Et entier, j'espère bien.
Oui.
Avec tout son goût, bien gras.
Voilà. Attention, attention. Et là, donc, ce lait, on peut l'aromatiser. Donc, comme on l'a fait à la vanille, mais on peut l'aromatiser à ce qu'on a envie.
C'est-à-dire
la cannelle. Moi, j'aime beaucoup quand c'est la saison, la verveine. Enfin, tout un tas de parfums. Et on suit les saisons. Ce lait chaud, on le verse sur les œufs qu'on a battus avec le sucre. Ensuite, on mélange le tout. On verse dans un plat dans lequel on a préalablement versé un caramel. Donc le caramel, on met simplement du sucre dans une casserole, on laisse fondre et on remue juste de
caramel
temps en temps.
Caramel à sec.
Exactement, un caramel à sec. Ensuite ce plat, on le met au bain-marie, 40 minutes, 170 degrés. On a l'impression qu'il n'est pas cuit, mais il est cuit, même si ça tremblote un tout petit peu. On le sort du four, on le laisse refroidir et ensuite on le met au réfrigérateur. Ce qui est génial, c'est qu'après on passe le couteau sur le bord et on le démoule. Là, voilà. On ne peut pas le démouler parce qu'on n'a pas le grand plat.
Est-ce qu'Arnaud Daguin confirme que ce flan ménager est cuit ?
Il est formidable.
Merci.
Voilà. C'est le flan comme on aime.
Il n'y manque à rien.
Vraiment ? Merci. Vous êtes sincère ?
Et c'est bien de pousser le caramel jusqu'à ce point de tangent.
Déjà, moi,
cet équilibre amer et sucre qui se fait.
Parce que sinon,
un
c'est
donné.
Un peu trop doux.
Oui, oui, absolument.
Et il n'y a pas trop de sucre. Souvent, moi je dis 150, mais j'arrive presque à 120 et 100 grammes.
Oui, c'est
parce
bien.
Parce que c'est largement suffisant
c'est bien
d'avoir
ça,
autant
oui.
de.
Guillaume Longré, moi je rajouterais juste qu'il ne faut pas que les lecteurs prennent peur quand ils verront l'histoire dans la bande dessinée, parce que je lui retourne sa cuisine. Quoi.
Oui.
Donc ce n'est jamais arrivé. Et tout ça pour un flan. D'ailleurs, l'histoire s'appelle Tout un flan. Et c'est vrai que je lui mets un bordel monstrueux dans sa cuisine.
Ah, il y a une image terrifiante. Parce que, en fait,
il fait faire des cauchemars.
C'est vrai que souvent, j'ai rencontré plusieurs fois des gens, dont Guillaume, qui disent mais même casser un œuf, ça prend une oui. certaine proportion. Par voilà. exemple, quand on le casse droit, net, il faut avoir une certaine assurance pour taper d'un
c'est
coup sec. Mais
c'est en fait, ça, après, ça, dans ça, la... pas ce qu'on appelle l'apprentissage.
on le voit très bien, c'est vrai que votre cuisine
c'est
est
vrai,
très bien représentée par Guillaume Long. C'est un véritable chantier. Précisons d'ailleurs que dans la deuxième partie de ce livre, il y a oui. toutes vos recettes. Alors
oui.
là, qui sont présentées de façon tout à fait classique, avec les proportions, les pas à pas, tout à suivre. Et la recette du flan pâtissier de Patricia Consalu est évidemment en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster. Répondez honnêtement à cette question, Guillaume Long. Est-ce que ce flan, du coup, vous vous êtes amusé à le reproduire à la maison, vous savez le faire? Est-ce que quelques-unes des recettes que vous avez apprises auprès de Sonia, vous les êtes appropriées?
Alors, pour l'instant, non. Mais parce qu'en fait, on les a tellement fait pendant un an. Moi, j'en ai tellement mangé de ces mantis, de ces garganelli, de sa poitrine de cochon. Là, les choses qu'on voit, que c'est vrai que non, pour l'instant, j'ai pas encore essayé. Mais j'ai fait par exemple les mantis là, de ta mémé oui. Peyloun.
Un petit mot sur les mantis, parce que ce qui fait aussi votre richesse et l'originalité de votre univers culinaire, Sonia, c'est que vous avez de l'autre côté une grand-mère arménienne. Et mantis,
ça a
une
connotation arménienne. Il va falloir qu'il se réconcilie avec la communauté arménienne, parce qu'il s'est bien bien moqué des Arméniens dans l'album. Soyez cool, les amis arméniens, surtout ma famille. Ne vous énervez pas.
Définition du menti, on est d'accord qu'on est sur la route de la soie. Et que c'est finalement une déclinaison des pâtes.
Qu'on va trouver. Alors, on trouve aussi des variantes. J'ai vu, par exemple, en Géorgie, dans plein de pays, on trouve des variantes plus ou moins identiques dans la forme. En fait, les mantis, c'est une toute petite bille. Mm-hmm. C'est pas une boulette. C'est vraiment très petit, une petite bille. Parce que Guillaume a essayé de m'arnaquer, voulait faire plus gros pour remplir plus facilement le plat. En fait, c'est une toute petite bille de viande, une farce de viande hachée avec tout un tas de choses, des herbes et des oignons. Et on va la poser sur un carré de pâte et pincer les deux bord, ça fait des petites barquettes. Sauf que pour faire un grand plat, donc ce grand plat qui s'appelle un cini, qui est largement 30% plus grand qu'un plat à tarte, mm-hmm. il faut beaucoup de ces petites barquettes pour remplir ce plat. Et donc il faut à peu près, pour faire deux plats, il faut à peu près 2h30. Donc le pauvre Guillaume a vu les premiers mantis.
Il faut savoir que moi, c'est un seul qui s'y colle, vous avez souffert.
Il faut savoir que moi, un seul petit menti, je mettais environ 5 minutes à le faire. Donc,
c'est ça. Voilà. Mais c'est intéressant de voir justement, et en même temps, ça humanise un peu la façon dont on peut cuisiner, c'est pas évident pour tout le monde.
De cuisiner. Souvent, on se met autour d'une table, on papote et on fait ses mantis voilà. en discutant. C'est rare de faire les mantis comme ça, tout seul, dans sa cuisine, en se morfondant. L'idée, c'est vraiment de le faire en discutant et c'était un vrai plaisir de le faire pendant 2h30 parce qu'on a papoté, on a ri, on a pris un thé, etc.
Nous sommes en direct avec l'auteur de bande dessinée Guillaume Long et la cuisinière lyonnaise Sonia Esgulian. Dans un instant, on va évoquer une divine recette d'aubergine. Ça tombe bien, c'est bientôt la saison, mais à la mode de Saïgon. Également une poitrine de porc au citron dont vous nous donnerez des nouvelles. Mais tout de suite, une petite pause musicale avec le dernier titre de Julien Gasque. Belle journée sur France Inter.
De prononcer ce mot.
À boire et à manger avec Sonia Esguillon, signé Guillaume Long, qui est au travail en train de dessiner, c'est ça ?
Oui, je suis en train de dessiner Sonia avec tous les plats qu'il y a sur la table en ce moment. Et qui dit « J'espère que vous avez faim
». Album, livre de recettes que vous avez signé ensemble aux éditions Gallimard. Alors, précisons que ce sont environ 10 histoires.
Oui.
10 histoires gourmandes autour de personnes qui vous ont inspiré en cuisine, Sonia, dont vous avez d'ailleurs écrit de très jolis portraits. Et 10 personnalités qui vous ont légué des recettes que vous nous faites partager au fil de ces planches de bande dessinée. Il y a les gnocchis de pommes de terre de Donna Murator, ça fait sacrément envie. Hein.
Ah oui, non, mais là c'est.
Les gnocchis, c'est la première histoire de.
C'est la première histoire parce qu'en fait, c'est ce moment-là qui a fait que j'ai changé de vie et que j'ai arrêté mon métier de journaliste pour devenir cuisinière.
Vous étiez journaliste à Paris Match.
Oui. Et puis j'ai rencontré la Donna Murator au hasard d'un reportage, c'était au Louis XV.
Le fameux établissement d'Alain Ducasse.
Pour un reportage sur Alain Ducasse. Le lendemain, on part à la campagne, on rencontre Donna Murator. Elle nous fait des gnocchis. J'ai été tellement impressionnée par cette femme. Je suis d'ailleurs très impressionnée là en parlant d'elle, que j'ai presque pas pu lui parler tellement j'étais impressionnée. Et le lendemain, j'ai décidé que j'arrêtais mon travail de journaliste pour devenir cuisinière à plein temps.
Quels secrets ont-ils ces gnocchis?
Beaucoup de choses, beaucoup d'amour. En fait, il fallait comprendre son jardin, son potager, le tonton qui faisait pousser les pommes de terre, l'amour qu'elle avait mis à les préparer, et en même temps cet impressionnant respect des traditions, parce que le tonton avait le droit de prendre la planche pour faire cuire les gnocchis, c'était elle qui les roulait d'une certaine façon avec la fourchette. Enfin. Tout était important. C'était les détails justement qui ont fait la force de ce moment.
Guillaume Long, un commentaire sur ces gnocchis.
Moi j'ai essayé.
Ça se passait comment dans l'assiette ?
Dans l'assiette.
À défaut d'avoir passé du temps en cuisine.
Ah c'était très bon. C'est très moelleux. Ça n'a rien à voir avec les gnocchis que j'achète d'habitude en supermarché.
Dans une boîte sous plastique.
Dans une boîte sous plastique.
Ils sont comme des ballons de rugby super rebondissants.
Exactement. Non et puis non c'était bien. C'était une. C'est vrai que c'était une très très bonne recette.
On vous demande si vous savez les faire ou pas là.
Oui là j'ai appris directement à les faire. Ça c'est un.
Il sait les faire. On dit la vérité, il sait les faire.
Il est aussi question. Il y a un petit prisme italien, hein, reconnaissons-le dans ce livre.
Vous avez quand même une passion pour l'Italie, évidemment. J'ai été très, très marquée par l'Italie, notamment en Naples, parce que j'y vais souvent. Et qu'on a une tribu de copains qui nous ont accueillis comme si on était de leur famille. Et donc, à chaque fois qu'on y va, c'est un petit peu dingue, parce que maintenant, on n'a plus rien le temps de faire que de faire des repas avec eux. Et notamment, un prêtre, celui de Positano, Don Giulio, qui nous prépare à chaque fois des repas. Incroyable, c'est-à-dire qu'on va le chercher le soir vers 19h après sa dernière messe et on rentre chez lui et il arrive à faire en deux temps de trois mouvements des plats dingues comme ses anchois au citron et
ses anchois au citron, ils sont sous nos yeux, ils font très envie ils sont très ensoleillés.
J'ai appris que pour bien faire mariner les anchois au citron, il fallait tout utiliser, le jus, le zeste, les feuilles.
Du citron.
Et c'est pas du chiquet, c'est vraiment. Alors, les citrons sont exceptionnels, forcément. Ils sont d'Amalfi ou de Sorrente.
On a fait une émission citron il y a quelques semaines avec Alessandro Pierini et également un producteur à Menton.
On peut rien. Voilà, il n'y a pas d'autre chose que.
Oui, mais attendez, on est d'accord, on part d'anchois frais.
Oui.
Qui sont filetés.
Tout à fait.
Qu'on taille soi-même en filet ou on demande à son.
C'est désespérant de simplicité. On peut le faire soi-même parce que.
Non, mais attendez, je pose la question. Alors, je me mets à la place de nos très nombreux auditeurs.
Si on sait faire, on le fait. En fait, on va pincer juste en dessous de la tête et on va tirer. En fait, les anchois se défont très très vite. Mais si on ne sait pas faire et qu'on a un gentil poissonnier, on peut lui demander de nous montrer. Parce qu'il faut toujours apprendre dans la vie. Donc on lui demande de nous en montrer un ou deux. Et puis à la maison, on s'entraîne. S'il y a deux, trois anchois qui ont souffert, faire, c'est pas grave. Mais l'important, c'est de pouvoir le faire, parce que ça change quand même tout.
Et vous les faites mariner dans un jus
de citron. Et après, il y a presque pas de sel. C'est ça qui est assez étonnant. Alors, c'est très, très mariné. Ça surprend, parce que c'est très cuit, en fait, par le citron. Mm-hmm. Il y a tout le jus d'un citron. Alors, vous imaginez le citron d'Amalfi. C'est un citron qui ressemble à un pamplemousse. Les feuilles
aussi, ouais.
Et le zeste. Mm. Et alors, nous, au début, on s'est dit, mon Dieu, ils sont morts, ces pauvres, sans choix. Il y a un tout petit peu de poivre et de piment. Il y a toujours un petit peu de piment dans ces recettes. Et c'est tout. Donc, c'est assez étonnant. Et sur le même principe, il fait donc... Alors là, je n'ai pas osé pour le livre, parce qu'il fallait trouver des lèvres de cochon. Donc là, je me suis dit, bon, ça va être un peu compliqué.
Des lèvres de cochon.
Voilà. C'est wow, très, très bon. Babines. C'est très gélatineux.
D'accord.
C'est magnifique.
Des babines.
Et on a transposé cette recette avec de la poitrine fraîche de porc, d'un super bon porc. Et là, on met des rangées d'oranges très fines de citron, beaucoup de jus. Et on goûte
alors, attendez,
simplement
attendez. Avec... La poitrine de porc, elle est présentée comme une espèce de oui. gros tapis moelleux, de matelas.
On l'a fait cuire avant.
Donc ça, on demande à son boucher de la tailler dans un bon cochon fermier, de préférence.
Un bon morceau, mm-hmm. qu'on va faire cuire dans un petit bouillon. Il n'y a rien dans le bouillon, hein. Il y a deux petits brins de marjolaine, et on fait cuire ça dans un bouillon. On laisse refroidir, et ensuite, on va couper les tranches les plus fines possibles de cette poitrine.
D'accord, c'est pas trop
et
compliqué.
Et là, on va arroser. Non, franchement, une fois que c'est bien froid, parce que quand
refroidir,
c'est... Dès que c'est froid,
parce que c'est quand même
solide,
un morceau du cochon assez gras.
Ah oui, mais vous allez voir, froid, ça fonctionne très très bien.
Ben, on va voir.
Et
on
en fait,
vu,
si, Guillaume, s'il te plaît, fais passer le petit plat.
C'est Arnaud Daguin qui va s'en occuper, Stéphane.
Please. Bon, alors, c'est ce qui est étonnant, c'est qu'il faut vraiment manger un petit morceau de poitrine de cochon et une tranche de citron.
Attendez, ça a vocation à être mangé froid comme ça?
Oui.
Alors, c'est Estherelle qui s'y colle.
Alors, c'est des petites choses à picorer. Hein. On est d'accord que le prêtre, il n'a pas le temps de nous préparer un repas gastronomique.
La parole à notre chroniqueuse, vous savez qu'elle est dans la vie critique gastronomique pour le journal Télérama. Estherelle Payani.
C'est étonnant comme le citron allège finalement.
Et on n'a pas l'impression que c'est gras.
On n'a pas du tout l'impression que c'est gras.
C'est étonnant hein, parce que c'est quand même de la poitrine. Alors on en mange très peu évidemment, c'est deux, trois petites tranches à l'apéritif, en dégustant un petit vin blanc. Et puis voilà, c'est délicieux.
Mais il faut et là vraiment... le secret c'est encore un très bon citron.
Oui, il faut déguster le porc avec ce petit citron. Et franchement, c'est tout simple, c'est vraiment une cuisine ménagère. Et surtout quand on n'a pas le temps, parce que le porc on peut le faire cuire un ou deux jours avant. Et on fait ce mélange au dernier moment, c'est tout.
Dans un instant, on vous promet vraiment une recette diabolique. Je l'ai goûtée en avant-première et je peux vous dire que ça vous tatoue les papilles pour un tout petit moment. Mais juste avant, désolé, Arnaud Daguin casse l'ambiance. En plus, il a la bouche pleine.
Le coup de l'âme d'Arnaud Daguin.
Cuisinière, cuisinier, rondelette, rondelet, potelette, potelée. Summer is coming. Plus que quelques semaines avant le maillot. Que dis-je, le maillot? L'épreuve du maillot. Summer is coming avec ses régimes totalitaires imposés par les marchands de canons de la beauté. Summer is coming et le marketing, caporal chef du capital, m'ordonne de mettre mon corps au pas. Allez, au pied le corps! Allez le corps! Au pied! Pardon. Cet autofascisme saisonnier me mène, moi, humble prétendant aux mensurations idéales, tout droit à la schizophrénie. D'un côté, mon corps, de l'autre, moi. Mon corps, je le dresse comme un chiot pour lui apprendre à faire le beau. Je m'interdis un dragibus, je m'accorde un macaron, je me permets un mojito. Mais pourquoi donc ce lexique pénitentiaire? Pourquoi tant de souffrance? Écoutez la plainte du corps. Pourquoi faut-il que l'appétit soit coupable? D'abord, c'est quoi l'appétit? Le besoin de se nourrir ou l'irrépressible envie de bouffer un bounty? À partir du moment où manger relève de l'autorisation et non plus du ressenti, je quitte le domaine de la nourriture et je rentre dans celui de la psychiatrie. Faire un régime, c'est régir, administrer, diriger, c'est faire de son cerveau le facho de son corps. Mais bon sang, suis-je donc à ce point déconnecté de mes besoins vitaux, tellement noyé sous les sollicitations et allégations tordues, est-ce que je sais encore reconnaître un besoin vital d'une compensation régressive? Et me voilà parti dans des pratiques imbéciles vendues par des gens qui ne me connaissent pas, mais qui prétendent savoir ce que je dois manger. Mais le seul qui peut savoir ça vraiment, c'est moi. Alors je consulte mon appétit qui moisit au mitard, ou plutôt